Bonjour à tous. Le secrétaire général vous parlera donc de la session qui vient de se terminer. Ensuite, répondra à vos questions avec plaisir. Bonjour à tous. Nous venons de tenir une bon échange et importante entre les dirigeants des pays alliés de l'OTAN. Nous avons fêté l'anniversaire de cette alliance qui a su garantir la paix et la sécurité pour l'ensemble des alliés depuis maintenant 70 ans. Et on a jeté un regard également vers l'avenir. Cette réunion a démontré une fois de plus que l'OTAN reste le seul endroit où l'Europe et l'Amérique du Nord peuvent discuter, décider et agir ensemble au quotidien. Toutes les questions sur les questions stratégiques qui sont importants pour notre sécurité à tous. L'ensemble des dirigeants ont dit clairement que nous sommes réunis, donc un pour tous, tous pour un. Notre engagement vis-à-vis de l'article 5, la clause de défense collective de notre alliance, est plus fort que jamais. Aujourd'hui, nous avons pris un grand nombre de décisions importantes. Nous avons augmenté l'état de préparation de nos forces. Je peux vous annoncer que nous avons terminé donc la NRI, l'initiative de réactivité de l'OTAN, les alliés ayant 30 bataillons, 30 escadrons aériens et 30 bâtiments de la marine de combat qui peuvent être mis à disposition de l'OTAN en l'espace de 30 jours. Nous avons déclaré l'espace comme le cinquième domaine opérationnel de l'OTAN à côté donc de la terre, air, la mer et le cyberespace. Nous avons convenu également d'un nouveau plan d'action pour renforcer nos efforts dans la lutte contre le terrorisme. Tous les alliés restent engagés dans la lutte contre Daesh et notre mission d'entraînement en Irak et la mission en Afghanistan également. Aujourd'hui, les dirigeants se sont engagés à garantir la sécurité de nos infrastructures de télécommunications, y compris les systèmes 5G. On doit donc compter uniquement sur des systèmes sécurisés et fiables. Les alliés ont également reconnu le fait qu'il y a eu un progrès sans précédent qui est fait vers un partage plus équitable du fardeau. C'est la cinquième année de suite consécutive donc d'augmentation dans nos investissements en défense. Les alliés européens et le Canada ont ajouté quelque 130 milliards de dollars US sur cette période et à la fin de 2024, ce chiffre passera à 400 milliards de dollars US. C'est un progrès sans précédent et cela ne fait que renforcer encore plus l'OTAN. Mais les dirigeants ont convenu qu'il faut en faire plus. Et les dirigeants ont également pris d'autres décisions portant sur d'autres sujets d'importance pour cette alliance. Tout d'abord, pour renforcer la protection de nos infrastructures énergétiques et pour garantir notre avancée technologique face aux technologies émergentes et de rupture, et pour renforcer notre réponse aux menaces hybrides. Nous avons eu un échange important également sur la Russie et le futur du régime de maîtrise des armements. Nous sommes engagés pour une dissuasion, une défense forte, tout en restant ouverts à un dialogue avec la Russie. Alors, l'OTAN réagit au déploiement de la Russie, au déploiement de missiles nucléaires portés intermédiaires de la Russie de manière coordonnée et défensive. Et nous allons donc renforcer le régime de maîtrise des armements, de non-prolifération et de désarmement. Pour la première fois, nous avons abordé la montée de la Chine du point de vue des défis que cela représente, tout autant que les opportunités qu'elle présente et les conséquences que tout cela peut avoir pour notre sécurité. Les dirigeants ont convenu du besoin d'en parler ensemble en tant qu'alliance, de trouver des moyens d'encourager la Chine à participer aux dispositions de maîtrise des armements. Avec un monde qui change, l'OTAN va continuer à s'adapter. L'OTAN est fort et nos réalisations de ces dernières années ont montré notre capacité à nous adapter à un environnement de sécurité en pleine évolution. Et de ce point de vue-là, nous avons décidé aujourd'hui de lancer un processus de réflexion sur une propre égide visant à renforcer davantage la dimension politique de l'OTAN. Je tiens à remercier le Royaume-Uni pour avoir accueilli cette rencontre des dirigeants de l'OTAN. Merci de votre formidable hospitalité. Nous avons donc noté donc, les réalisations des 70 premières années et fixé le cap pour les années à venir. Les dirigeants de l'OTAN vont se retrouver à nouveau en 2021. Et sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions.
In the front row.
Je donne la parole à Reuters au premier rang. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, nous savons que la Turquie a souhaité mettre en suspens un plan pour défendre la Pologne et les États baltes. Alors, je voudrais savoir si vous avez pu régler cette question aujourd'hui et si oui, comment. Alors, nous avons des plans qui sont en place pour ce qui concerne la protection de tous les alliés. Et cela vaut pour la Pologne et les États baltes. Et il n'y a pas que cela, il n'y a pas que des plans, il y a des forces également, plus de forces qu'auparavant. Et pour ce qui concerne la Pologne et les États baltes, pour la première fois, nous avons des troupes de combat qui sont déployées dans la partie orientale de l'Alliance. Nous avons par ailleurs triplé la taille de la force de réaction de l'OTAN, donc on peut rapidement procéder à des renforts. Et aujourd'hui, nous avons lancé cette nouvelle initiative en matière de disponibilité opérationnelle pour que l'on ait d'autant plus de force et que l'on puisse agir suffisamment rapidement, le cas échéant. Alors, pour ce qui est de ces différents plans pour protéger les différentes parties de l'Alliance, ces plans, ils sont régulièrement mis à jour et révisés. Et aujourd'hui, nous avons donné notre accord par rapport au plan mis à jour pour la Pologne et les États baltes. C'est quelque chose dont je me félicite. Et cela montre que nous sommes en mesure d'aller de l'avant, y compris pour des plans révisés. Et cela vaut donc pour la Pologne et les États baltes.
Sky, in the middle.
Au milieu, donc pour Sky, la dame en rouge. Merci. Deborah Haynes, Sky News. Alors, vous parlez de l'OTAN comme la plus grande alliance militaire de l'histoire. Et par contre, très souvent, dans les grands titres, on voit que les éléments de désaccord, notamment le fait que le président Trump parle du président Macron comme manquant de respect, question de mort cérébrale, les accusations de ce genre. Vous n'avez pas peur que ce genre de désaccord public sape l'unité de l'Alliance? Alors, ces désaccords attirent toujours plus d'attention que les accords. C'est normal dans une société démocratique, je ne vais pas m'en plaindre, c'est un fait. Maintenant, il y a eu des désaccords au sein de l'OTAN depuis le début de l'Alliance. Nous sommes 29 pays différents, de part et d'autre de l'Atlantique, avec chacun son histoire, sa géographie, des partis politiques au pouvoir. Donc, bien entendu qu'on a nos différences. Ce serait bizarre si c'était autrement. Mais la force de l'OTAN, c'est qu'on a toujours pu surmonter ces différences et ensuite s'unir autour de notre mission fondamentale qui consiste à se protéger, se défendre les uns les autres. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec beaucoup de matières, beaucoup de décisions importantes. Souvenez-vous qu'il y a eu des désaccords dans cette alliance depuis la crise de Suez dans les années 50, en passant par la guerre en Irak dans les années 90 et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, on montre que l'OTAN continue à s'adapter, à réagir. On vient de mettre en œuvre le plus grand renforcement de notre défense collective depuis une génération. J'étais politicien depuis de nombreuses années et pour les hommes politiques, on les critique souvent d'être très bien sur les paroles, mais moins sur les actes. L'OTAN, c'est l'inverse. On agit.
In the middle.
L'agence France-Presse a la parole.
Hi.
Bonjour, Damien Wig, AFP. Vous avez parlé de la Russie et l'Allemagne ce matin a expulsé deux diplomates russes et a dit qu'il y avait des indications comme quoi les Russes seraient derrière le meurtre d'un rebelle tchétchène à Berlin. Alors dans ce contexte, que pensez-vous de l'appel lancé par Emmanuel Macron en vue d'établir un dialogue stratégique avec la Russie? Eh bien, il y a un dialogue. Nous croyons aux vertus d'un dialogue entre l'OTAN et la Russie parce que la Russie est notre plus gros voisin, c'est un voisin immédiat et nous devons travailler en vue d'avoir de meilleures relations avec ce pays. Et même si nous ne sommes pas en mesure d'arriver à une meilleure relation avec ce pays, dans l'immédiat en tout cas, nous devons gérer cette relation qui est aujourd'hui difficile. Avec plus d'exercices, plus de présence militaire, par rapport à tout cela, nous devons veiller à ce qu'il y ait prévisibilité, transparence, pour éviter des incidents et des accidents. Et lorsque ces incidents se produisent, eh bien, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'escalade et qu'on se retrouve dans des situations réellement dangereuses. Donc l'OTAN et moi-même, nous croyons aux vertus de ce dialogue, mais nous pensons qu'il faut une approche double, c'est-à-dire que le dialogue est important tant qu'on est dans une position de force et de fermeté. Tant qu'on est dans cette situation-là, alors on peut avoir un dialogue avec la Russie, y compris pour ce qui est de la maîtrise des armements. Nous devons éviter une course aux armements qui est onéreuse, qui est dangereuse, et c'est la raison pour laquelle nous sommes déçus des violations du traité FNI par la Russie et que nous réfléchissons aujourd'hui à la manière de renforcer le processus de maîtrise des armements. Nous avons en effet besoin d'accords pour faire en sorte que le nombre d'armes particules nucléaires reste bas.
Oui, merci. Michael Peel pour le Financial Times. Monsieur le secrétaire général, vous avez parlé à plusieurs reprises de la maîtrise des armements, le besoin de faire participer la Chine dans ces accords. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les idées que vous avez évoquées ensemble, sur les modalités d'une participation chinoise dans ces échanges? Et qu'en est-il des défis plus largement présentés par la Chine? Quels sont les problèmes que la Chine pose en termes sécuritaires? Alors, traditionnellement, l'OTAN s'est concentré sur l'Union soviétique et plus dernièrement sur la Russie. Et c'est la première fois que les dirigeants de l'OTAN ont tenu des discussions pour aborder ensemble le sujet de la Chine en partant de nos différentes analyses, de nos évaluations. Alors, ça portait donc à la fois sur les opportunités présentées par la montée de la Chine, mais également les défis que cela représente. Donc le fait que les 29 alliés parlent ensemble de cette question est déjà un pas important dans le bon sens. Deuxièmement, il faut reconnaître que ce n'est pas une question unidimensionnelle. La montée économique de la Chine nous offre des opportunités importantes économiques et des milliers de gens sont sortis de la pauvreté à cause de cela. En même temps, la Chine investit dans de nouvelles capacités très modernes. Il y a quelques semaines, ils ont déployé un nouveau missile balistique intercontinental pouvant atteindre l'Europe et les États-Unis. Ils ont des planeurs, des missiles hypersoniques. Ils ont des centaines de missiles qui seraient en violation du traité FNI si la Chine avait été partie à ce traité. Donc nous devons maintenant voir comment nous pouvons inclure la Chine dans les dispositions en matière de maîtrise d'armement à l'avenir. Mais ce processus est loin d'être terminé. Donc je ne peux pas être très spécifique à cet égard, mais c'est clairement un problème abordé par les dirigeants aujourd'hui même. Alors, la Chine fait partie de certains régimes déjà, notamment le traité de non-prolifération auquel elle a souscrit. Et on va maintenant revoir les termes de ce traité au printemps prochain. Et ce sera à ce moment-là peut-être l'outil le plus important pour éviter une plus grande prolifération des armes nucléaires dans le monde.
Post in the first row.
The Washington Post. Monsieur le secrétaire général, Monsieur Stoltenberg, hier, le président Trump parlait de mesures de représailles contre des membres de l'OTAN qui n'honoreraient pas leur engagement de 2% en matière de dépenses de défense. Alors, est-ce que vous êtes favorable à des mesures de représailles par rapport à ces membres-là? Est-ce que c'est quelque chose dont le président Trump a parlé en séance aujourd'hui? Ensuite, deuxième question, les plans de défense ont donc été approuvés pour les États baltes. Qu'avez-vous donné au président Erdogan pour que la Turquie donne son assentiment? Eh bien, j'ai eu un échange de qualité avec le président Erdogan hier. Nous avons parlé de différents thèmes. Le point important aujourd'hui, c'est que tous les alliés ont donné leur accord par rapport, non pas à un nouveau plan, mais à un plan révisé, mis à jour pour la Pologne et les États baltes. Et cela montre bien que nous sommes en mesure de prendre des décisions de fond et que nous sommes donc dans ce cadre-là en train de faire avancer l'alliance. Alors après, ce n'est pas à moi de faire des commentaires sur tout ce qui a été dit par les uns et les autres. Vous pourrez leur demander directement. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que tous les alliés ont aujourd'hui donné leur assentiment par rapport à leur engagement au niveau de l'article 5, un pour tous, tous pour un. Et ça, c'est un engagement inébranlable qui est pris. Et la vocation principale de l'OTAN, c'est de préserver la paix. Ce n'est pas de mener la guerre, c'est d'empêcher la guerre. Il ne s'agit pas de provoquer un conflit, mais plutôt d'empêcher, de prévenir des conflits. Et donc, le mieux pour cela, c'est d'avoir un engagement sans faille, à 100%, par rapport à l'article 5. Ainsi, quand un allié est attaqué, on sait qu'il y aura une réponse, une réaction de la part de l'ensemble des alliés. Et tant que les adversaires potentiels sauront que c'est le cas, alors il n'y aura pas d'attaque, il y aura la paix. Et ce principe-là, l'article 5, la clause de défense collective, c'est justement ce à quoi tous les alliés ont donné leur accord. Après, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire plus de dépenses en matière de défense. On a reconnu les avancées enregistrées d'ores et déjà, mais on a également dit qu'il fallait en faire plus, et en particulier pour ceux qui ne sont pas encore à 2%. Je vais continuer de marteler ce message.
Merci. Asim Rim de Salamatander, de Afghanistan. Ma question porte sur la reprise des pourparlers de paix avec les talibans. Pensez-vous qu'il faut, parmi les préalables, un cessez-le-feu? Alors, moi, je salue les efforts visant à reprendre les pourparlers de paix. L'OTAN a soutenu, appuyé ces pourparlers parce que nous pensons que nous avons besoin d'une solution politique négociée en Afghanistan. Les États-Unis ont mené des consultations étroites avec ses alliés partenaires tout au long de ce processus, que ce soit au niveau politique, mais également donc l'ambassadeur Khalilzad s'est rendu à de nombreuses reprises à Bruxelles. Donc il y a des consultations étroites sur les efforts visant à reprendre les pourparlers de paix en Afghanistan. Moi, je me félicite également des efforts entrepris pour aboutir soit à un cessez-le-feu ou bien une réduction des violences, mais je ne serai pas spécifique sur les conditions préalables précises permettant la prise du dialogue, mais nous sommes engagés à continuer notre soutien par l'Afghanistan, car nous pensons que le meilleur moyen pour l'OTAN de soutenir les efforts de paix est de former, de conseiller, d'assister les forces de sécurité afghanes pour que les talibans comprennent qu'ils ne vont jamais l'emporter sur le champ de bataille. Donc, ils sont les obligés à s'asseoir autour de la table de négociation. Donc, on continuera à être présent en Afghanistan tout en espérant que le processus de paix nous livre un accord de paix crédible.
From North Macedonia.
Bonjour, journaliste de Macédoine du Nord. Comment percevez-vous la situation sécuritaire en Europe et au niveau de l'Union européenne? J'ai en tête le fait que la Macédoine du Nord a pu être acceptée par l'OTAN, mais pas par l'Union européenne. La Macédoine du Nord et son Premier ministre ont été chaleureusement accueillis à la réunion d'aujourd'hui. Et nous sommes tous très heureux de pouvoir prochainement compter la Macédoine en tant que 30e membre de l'Alliance. Voilà qui montre bien que la porte de l'OTAN reste ouverte. Cela montre que cette adhésion sera positive pour le pays lui-même, mais aussi pour la région. Cela démontrera que l'OTAN donne suite à ses engagements en matière de portes ouvertes. Ensuite, ce n'est pas à moi de faire des commentaires sur l'élargissement de l'Union européenne. Moi, je m'occupe de l'OTAN et je ne vais pas parler de l'Union européenne.
OK. One last question.
Dernière question, ce sera autour de la BBC.
Hi, Richard Gapin from...
Richard Gapin, donc de la BBC. Il semblerait que le président Erdogan souhaite que l'OTAN reconnaisse le groupe kurde comme YPG, comme organisation terroriste. Est-ce que vous en avez parlé? Et si oui, quelle a été votre décision en la matière? Et est-ce qu'il est acceptable que la Russie s'acquiert donc un système de défense antimissile de la Russie? Bon, il est bien connu que les avis divergent entre alliés de l'OTAN sur la désignation donc des groupes YPG et au Trans-Syrie. Donc, ça, c'est publiquement connu. Ce n'est pas quelque chose que nous avions abordé directement en séance aujourd'hui, mais c'est effectivement une question dont on a parlé, dont on a pu parler entre alliés de l'OTAN. Et on le sait bien, les avis divergent à ce sujet. Par contre, nous sommes tous d'accord sur l'importance de ne pas remettre en cause les gains que nous avons accomplis dans la lutte contre le terrorisme. L'ensemble des pays membres de l'OTAN font partie de la coalition anti-Daesh et nous avons un plan d'action actualisé pour renforcer notre action dans la lutte contre le terrorisme. Et à notre mission d'entraînement en Afghanistan, en Irak, voilà, qui contribue à la lutte contre le terrorisme. Maintenant, sur l'achat donc du système S-400 par la Turquie, ça s'agit d'une décision nationale de la Turquie. Beaucoup d'alliés ont exprimé leurs préoccupations. Moi-même, j'ai exprimé mes soucis par rapport aux conséquences d'une telle décision. Mais avec le système S-400, russe ne pourra jamais être intégré dans le système de défense antimissile et aérienne de l'OTAN. Ne pourra jamais donc faire partie intégrante du dispositif IMD de l'OTAN. Mais bon, l'OTAN est le seul endroit où l'Amérique du Nord et l'Europe, les 29 alliés, se retrouvent au quotidien pour discuter, pour prendre des décisions et prendre des mesures sur tout un ensemble de questions. Parfois, cela se fait au niveau des chefs d'État et de gouvernement, parfois au niveau des ministres, parfois au niveau des ambassadeurs, ou voire des comités. La plupart du temps, nous sommes d'accord et on arrive à des conclusions. Mais parfois, il y a effectivement des accords. Mais à ce moment-là, on a pu toujours surmonter ces désaccords pour continuer à remplir notre mission fondamentale. C'est ce qu'on a montré aujourd'hui même. Et la réunion d'aujourd'hui, bon, il y avait une excellente ambiance. La réunion est extrêmement constructive et très productive. Encore une fois, nous avons pris beaucoup de décisions concrètes. Donc, bonne réunion constructive, productive entre les chefs d'État et de gouvernement pour marquer le 70e anniversaire de l'Alliance. Voilà qui montre que notre regard ne se dirige pas seulement vers le passé, mais résolument vers l'avenir, avec ce besoin de continuer à s'adapter. Donc, voilà qui montre toute l'unité, la force de cette Alliance. Donc, malgré nos différences, nous restons unis. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce point presse.